Chapitre 12. C'est alors que je sentis la nécessité de mettre en œuvre toutes les ressources de ma position et de mon expérience. La déroute de l'empereur, sa présence dans Paris, qui soulevait l'indignation générale, me plaçait dans la circonstance la plus favorable pour arracher de lui une abdication à laquelle il s'était refusé quand elle aurait pu le sauver. Je mis en campagne tous mes amis, tous mes adhérents, tous mes agents, avec le mot d'ordre. Moi-même, je m'abouchais avant le conseil avec l'élite de tous les partis. Aux membres inquiets, défiants et ombrageux de la chambre, je dis « Il faut agir, faire peu de phrases et courir aux armes. Il est revenu furieux, décidé à dissoudre la chambre et à saisir la dictature. Nous ne souffrirons pas, je l'espère, ce retour à la tyrannie. » Je dis aux partisans de Napoléon « Ne savez-vous pas que la fermentation contre l'empereur est à son comble parmi un grand nombre de députés? On veut sa déchéance, on exige son abdication. Si vous êtes résolu à le sauver, vous n'avez qu'un parti sûr, c'est de leur tenir tête avec vigueur, de leur montrer quelle puissance il lui reste encore et qu'il ne faut qu'un mot pour dissoudre la chambre. » J'entrais ainsi dans leur langage et dans leur vue. Ils se montrèrent alors à découvert, et je pus dire aux chefs des patriotes qui se groupaient autour de moi, « Vous voyez bien que ces meilleurs amis ne font pas de mystère, le danger est pressant. Dans peu d'heures, les chambres n'existeront plus. Vous seriez bien coupable de négliger le seul moment de vous opposer à leur dissolution. » Le conseil assemblé, Napoléon fit lire par Marais le bulletin de la bataille de Waterloo, et finit en nous déclarant qu'il avait besoin, pour sauver la patrie, d'être revêtu d'un grand pouvoir, d'une dictature temporaire.
Qu'il pourrait s'en emparer, mais qu'il croyait plus utile et plus national qu'il lui fût donné par les chambres. Je laissai à ceux de mes collègues qui pensaient et agissaient comme moi le soin de combattre cette proposition déjà décréditée et battue en ruine. Ce fut alors que M. de Lafayette, instruit de ce qui se passait au Conseil et sûr de la majorité, fit sa motion de la permanence des chambres, motion qui déconcerta tout le parti militaire et, ralliant le parti patriote, lui donna une grande force morale.
Attaqué par les chambres, Napoléon n'ose prendre aucun parti. Ils sont Davout pour opérer militairement la dissolution, Davout s'y refuse. Le lendemain, nous manœuvrâmes tous pour arracher son abdication. Il y eut une foule d'allées et venues, de pourparlers, d'objections, de répliques, en un mot des évolutions de tout genre. Il y eut du terrain pris, abandonné, repris de nouveau. Enfin, après une journée chaude, Napoléon se rendit en plein conseil, persuadé qu'une plus longue résistance serait inutile. Alors, se tournant vers moi, il me dit avec un rire sardonique, « Écrivez à ces messieurs de rester en repos, ils seront satisfaits. » Lucien prit la plume et rédigea, sous la dictée de Napoléon, l'acte d'abdication tel qu'il fut rendu public. Ici, changement de scène. Le pouvoir n'étant plus dans les mains de Napoléon, qui donc allait rester le maître du terrain. Je pénétrai bientôt les desseins du cabinet. Je découvris que le parti bonapartiste, dirigé alors par Lucien, voulait faire envisager comme conséquence de l'abdication la proclamation immédiate de Napoléon II et l'établissement d'un conseil de régence. C'eût été laisser triompher le camp ennemi. En effet, cette régence, depuis si longtemps le but de tous mes calculs et l'objet de tous mes vœux, venant à s'organiser sous une autre influence que la mienne, m'excluait du gouvernement. Je dus alors recourir à de nouvelles combinaisons et dresser des contre-batteries pour écarter avec la même adresse le système de régence et le rétablissement des Bourbons. J'imaginais la création d'un gouvernement provisoire établi d'après mes indications et qu'en conséquence je dirigerais selon mes vues. Je me présentais à la Chambre pour lui persuader de se conduire avec fermeté en consacrant les principes et les lois de la Révolution. La Chambre ayant accepté l'abdication de Napoléon sans faire aucune mention de la clause qu'elle renfermait, Lucien s'agita pour obtenir la proclamation de Napoléon II. Il avait pour lui les fédérés, les militaires, la populace et un grand parti de la Chambre des Pairs. J'avais pour moi la majorité de la Chambre des représentants, un parti aussi dans la Chambre des Pairs, la garde nationale, la plupart des généraux et les royalistes qui me ménageaient et me circonvenaient dans l'espoir que je dirigerais la chance en faveur des Bourbons. Déjà, Lucien avait mandé Réal à l'Élysée pour rassembler les fédérés sous les croisées de Napoléon. Ce ne fut pas sans peine qu'on obtint le consentement de l'ex-empereur. On y parvint qu'en lui faisant observer que mon parti voulait faire considérer son abdication comme pure et simple, que s'il ne conservait pas au moins l'ombre de la puissance, on ne pourrait assurer ni sa fuite, ni le transport de ses richesses. Que d'ailleurs l'abdication en faveur de son fils amènerait peut-être l'Autriche à lui procurer un traitement plus favorable de la part des alliés. Réal entre aussitôt en campagne et ameute aux Champs-Élysées toute la canaille de Paris. De son côté, Lucien monte en voiture, court à la chambre des pairs et leur dit, dans un discours préparé, « L'empereur est mort, vive l'empereur, proclamons Napoléon II ». La majorité semble accéder à cette proposition. Lucien revient triomphant aux Champs-Élysées et endoctrine les 2 ou 3 000 bandits que Réal avait ameutés autour du palais et leur fait promettre de se transporter à la chambre des représentants pour décider la proclamation de Napoléon II. Il entre dans l'Élysée et amène sur la terrasse son frère dont la physionomie offrait déjà des marques d'abattement. Là, Napoléon fait quelques signes de la main, salue la bande des exaltés qui défie devant lui au cri de « Vive notre empereur et son fils, nous n'en voulons pas d'autre ». Mais ces démonstrations et ce dévouement de commande m'inquiètent peu. Je surveillais les moindres mouvements et le seul fil solide était dans mes mains. Je m'étais d'ailleurs assuré l'initiative et au moment même de ce brouhaha ridicule, les chambres nommaient une commission exécutive provisoire dont la présidence m'était dévolue. Cependant, Réal avait donné le mot d'ordre aux fédérés pour qu'ils allassent défiler devant le corps du palais législatif. Ils s'y rendirent en tumulte, mais il n'était plus temps. Les législateurs effrayés venaient de déserter leur salle après avoir nommé la commission. La nuit dissipa l'attroupement qui, en traversant les rues de Paris, répandait la terreur parmi les citoyens par la décharge de leurs armes et faisait entendre hautement des cris de mort contre quiconque ne reconnaîtrait pas Napoléon II. L'agitation du jour se termina par des conciliabules nocturnes, prélude d'une séance des plus animées pour le lendemain. Dès le matin, j'étais entré en possession avec mes collègues Caulaincourt, Carnot, Quinette et le général Grenier, des rênes du gouvernement. Nous procédions à notre organisation quand j'appris que le député Béranger, à l'ouverture de la séance, venait de demander que les membres de la commission fussent responsables collectivement. Cette proposition avait évidemment pour objet de porter chacun d'eux à s'isoler de mon vote et à me surveiller par suite de la défiance que j'excitais dans la faction bonapartiste. Comme s'il n'en avait pas dit assez, il ajouta « Si ces hommes étaient inviolables en supposant que l'un d'eux vint trahir ses devoirs, vous n'auriez aucun moyen de le faire punir. » Je ne redoutais rien de ces attaques détournées, je l'ai déjà dit, mon parti était le plus fort. Le conseiller Boulet de la Meurthe, l'un des adhérents les plus exaltés de Bonaparte, en vint à une philippique où il signala et dénonça la faction d'Orléans. C'était avertir les amis des Bourbons et les Bonapartistes qu'un troisième parti apparaissait à la faveur de la doctrine du gouvernement de fait que, depuis 3 mois, nous opposions au dogme de la légitimité. Il est certain que me trouvant embarqué avec un nouveau parti, plus d'accord avec mes principes que ceux qui n'offraient d'autres perspectives que le gouvernement absolu ou la contre-révolution, et pressentant l'impossibilité de conserver le trône à Napoléon II, je me sentis plus disposé à seconder les efforts de ce nouveau parti, pour peu que les cabinets ne s'y montrassent pas trop contraires. La déclamation de Boulet avait pour principal objet de faire proclamer Napoléon II par la Chambre. La partie étant fortement liée, il fallut de l'adresse pour esquiver l'attaque. Monsieur Manuel se chargea de ce soin délicat dans un discours qui emporta tous les suffrages et où l'on crut reconnaître le cachet de ma politique. Il conclut en s'opposant à ce qu'aucun membre de la famille de Bonaparte fût appelé à la régence. C'était le point décisif, c'était m'abandonner le champ de bataille. L'assentiment de la Chambre fut pour la commission du gouvernement une nouvelle garantie et me donna, dans les affaires, en ma qualité de président, une prépondérance incontestée. Installé dès le 23 juin, notre première opération fut de faire déclarer la guerre nationale et d'envoyer 5 plénipotentiaires au quartier général des Alliés avec la mission de traiter de la paix et d'adhérer à toute espèce de gouvernement, excepté celui des Bourbons. Leurs instructions secrètes portaient de laisser placer la couronne à défaut de Napoléon II sur la tête du roi de Saxe ou du duc d'Orléans, dont le parti s'était renforcé d'un grand nombre de députés et de généraux. J'avoue que je faisais ainsi une concession un peu large aux meneurs actuels et qu'au fond je doutais très fort qu'on parvînt au but qu'on se proposait. J'avais même d'autant plus lieu de croire que la cause des Bourbons était loin d'être désespérée qu'un de mes agents secrets vint bientôt m'annoncer l'entrée de Louis XVIII à Cambrai et m'apporter sa déclaration royale. Aussi nos plénipotentiaires furent-ils d'abord amusés par des réponses dilatoires. Qu'on juge de ma position, le parti de Napoléon, toujours vivace, se recrutait, pour ainsi dire, de 80 000 soldats qui allaient se rallier sous les murs de Paris, tandis que les armées confédérées s'avançaient rapidement sur la capitale, chassant devant elles tous les bataillons, tous les corps qui essayaient de leur barrer le passage. Il me fallut à la fois contenir les fédérés, m'assurer des généraux pour maîtriser l'armée, déjouer les nouveaux plans de Bonaparte, qui ne tendaient à rien moins qu'à le replacer à la tête des troupes, et refréner l'impatience des royalistes qui auraient voulu ouvrir les portes de Paris à Louis XVIII au milieu même du déchaînement de tant de passions contraires d'où pouvaient naître encore d'horribles convulsions. Je ne raconterai point ici une foule de petites intrigues, de détails accessoires, de contrariétés et de chicanes qui, pendant cette tourmente, m'infligèrent toutes les tribulations du pouvoir. Avant l'abdication, j'étais épié et continuellement sur le qui-vive vis-à-vis des adhérents les plus chauds de Napoléon, tels que Marais, Thibaudeau, Boulet de la Meurthe, Regnault lui-même, qui m'étaient tantôt favorables et tantôt contraires. Maintenant, j'avais à me défendre des exigences d'un autre parti, j'avais à me prémunir contre les défiances de mes propres collègues, de Carnot entre autres, qui, de républicain, était devenu tellement zélé pour Napoléon qu'il avait pleuré à chaudes larmes en ma présence, après avoir opiné seul, mais vainement, contre l'abdication. On sent bien que je n'étais pas parvenu à museler cette tourbe de hauts fonctionnaires, de maréchaux, de généraux, qu'en leur garantissant, pour ainsi dire, sur ma tête, la sûreté de leur personne et de leur fortune. C'est ainsi que j'eus, pour ainsi dire, carte blanche pour négocier. J'expédiai d'abord au quartier général de Wellington mon ami M.G., homme probre qui jouissait de toute ma confiance. Il était porteur de deux lettres cousues dans le collet de son habit, l'une pour le roi, l'autre pour le duc d'Orléans. Car jusqu'au dernier moment, et dans l'incertitude de prolonger sur les intentions des alliés, il ne fallait négliger aucun des moyens de rentrer au port. Mon envoyé fut introduit de suite auprès de Lord Wellington et lui dit qu'il désirait être présenté au duc d'Orléans. « Il n'est point ici, lui répondit le généralissime, mais vous pouvez vous adresser à votre roi. » Et en effet, il prit la route de Cambrai et alla au-devant du roi. Ne le voyant pas revenir, je fis partir, pour la même destination, le général de T, homme de cœur et de tête, à qui je donnai la commission expresse de sonder les intentions de Lord Wellington et de lui faire connaître ma position particulière, combien les esprits étaient exaspérés et les passions tellement enflammées que je ne répondais point de préserver la France d'être mise à feu et à sang, si l'on s'opiniâtrait à vouloir rendre le trône aux Bourbons. J'offrais de traiter directement avec lui sur toute autre base. Cette fois, la réponse du généralissime fut absolue et négative. Il déclara qu'il avait l'ordre de ne traiter que sur l'unique base du rétablissement de Louis XVIII. Quant au duc d'Orléans, ce n'eût été, selon l'expression de Wellington, qu'un usurpateur de bonne famille. Cette réponse, que je cachais soigneusement à mes collègues, rendit ma position bien autrement délicate. D'un autre côté, nos plénipotentiaires, sortis de l'an le 26 juin, étaient arrivés le 1er juillet au quartier général des souverains alliés à Haguenau. Là, les souverains, ne jugeant pas convenable de leur accorder audience, nommèrent une commission pour les entendre. On ne manqua pas de leur faire la question que j'avais prévue, de quel droit la nation prétendait-elle expulser son roi et se choisir un autre souverain. Ils répondirent par un exemple tiré de l'histoire même d'Angleterre. Avertis par cette question des dispositions des alliés, les plénipotentiaires nationaux s'attachèrent moins à obtenir Napoléon II qu'à repousser Louis XVIII. Ils insinuèrent enfin que la nation pourrait agréer le duc d'Orléans ou le roi de Saxe s'il ne lui était pas possible de conserver le trône au fils de Marie-Louise. Après quelques pourparlers insignifiants, ils furent congédiés par une note portant que les cours alliés ne pouvaient entrer quant à présent dans aucune négociation, qu'elle regardait comme une condition essentielle que Napoléon fût hors d'état pour l'avenir de troubler le repos de la France et de l'Europe, et que, d'après les événements survenus au mois de mars, les puissances devaient exiger qu'il fût remis à leur garde. Ainsi, la commission du gouvernement se voyait frustrée de l'espoir d'obtenir le duc d'Orléans ou Napoléon II. Avant même le retour des plénipotentiaires, j'étais directement instruit des véritables intentions des puissances. Je ne m'occupais plus dès lors qu'à donner un cours aux événements tels qu'ils pussent aboutir au dénouement qui serait le plus favorable pour la patrie et pour moi-même. J'avais demandé un armistice et envoyé à cet effet des commissaires aux généraux alliés qui venaient de commencer l'investissement de la capitale. Blücher et Wellington éludèrent toute proposition à ce sujet, élevant plus que des objections contre le gouvernement de Napoléon II, parlant de Louis XVIII comme du seul souverain qui leur semblait réunir toutes les conditions qui empêcheraient l'Europe d'exiger des garanties pour sa sécurité, et se plaignant vivement de la présence de Bonaparte à Paris au mépris de son abdication. Cet homme, comme si la fatalité l'eût poussé à se précipiter de lui-même dans l'abîme, c'était d'abord obstiné, au lieu de gagner précipitamment l'un de nos ports, à rester au palais de l'Élysée, puis à la Malmaison, toujours dans l'espoir de ressaisir l'autorité, non plus comme empereur, mais au moins comme général. Il alla même, excité par de fanatiques amis, jusqu'à nous en adresser la demande formelle. Ce fut alors que je m'écriai en plein conseil de la commission « Cet homme est fou sans doute, veut-il donc nous entraîner dans sa perte ?» Et je dois le dire, toute la commission, Carnot, votèrent avec moi pour une résolution définitive à son égard. Il était gardé à vue et Davoust était déterminé à le faire arrêter à la moindre tentative de sa part pour nous débaucher l'armée. Il était d'autant plus urgent de prendre un parti décisif à son égard que la cavalerie ennemie, poussant des partis jusque dans les environs de la Malmaison, pouvait l'enlever d'un moment à l'autre et l'on n'aurait pas manqué de m'imputer une part de cet événement. Il nous fallut négocier son éloignement et envoyer un officier général pour y présider. Le reste est connu. Cette courte explication des faits suffira pour répondre aux accusations des détracteurs aveugles et passionnés qui, apercevant quelques similitudes entre la captivité de Napoléon et de Persée, roi de Macédoine, ont attribué celle du premier à des combinaisons perfides qui, en calculant les jours et les heures, l'auraient livré aux Anglais par des moyens détournés et habilement ménagés. Nous espérâmes, après le départ de Napoléon, pouvoir obtenir l'armistice. Il n'en fut rien. Ce fut alors que j'écrivis à chacun des généraux en chef des armées assiégeantes les deux lettres qui ont été rendues publiques. On peut remarquer dans ces lettres où je feignis, par la nécessité des circonstances, de plaider la cause de Napoléon II, que je regardais la question comme irrévocablement décidée en faveur des Bourbons. Mais pour endormir la vigilance des partis, il me fallut paraître penché tour à tour pour la branche cadette ou pour la branche régnante. J'espérais d'ailleurs qu'en aidant Louis XVIII à se rétablir, ce prince consentirait à écarter quelques hommes dangereux et à faire à la France de nouvelles concessions, sauf, si je ne pouvais rien obtenir, à recourir plus tard à d'autres combinaisons. J'eus alors des conférences nocturnes, soit avec monsieur de Vitrolles, à qui je venais de procurer la liberté, soit avec plusieurs autres royalistes éminents et deux maréchaux qui inclinaient pour les Bourbons. J'envoyai à la fois des émissaires au roi, au duc de Wellington et à monsieur de Talleyrand. Je savais que M. de Talleyrand, après avoir quitté Vienne, s'était transporté à Francfort, puis à Wiesbaden pour être plus à portée de négocier soit à Gand, soit à Paris. Très ardent contre Napoléon, il jugea pourtant, après son entrée à Paris, devoir s'entendre avec moi, me promettant de son côté de me garantir auprès des Bourbons, dont le rétablissement après la bataille de Waterloo lui parut infaillible. Je pensais qu'il devait être alors auprès du roi, et je savais, à n'en pas douter, que pour rester maître des affaires, il réclamerait l'éloignement de monsieur de Blacas. Je manœuvrais aussi en conséquence. Mais il m'était presque impossible de ne pas exciter la défiance de mes collègues. Mes démarches étant observées, j'eus à supporter des bordées de reproches et des déclamations amères de la part de quelques meneurs révolutionnaires et bonapartistes dont je repoussais froidement les imputations. Telle était ma position, que j'avais à entretenir des négociations avec tous les partis et à transiger avec toutes les opinions dans mon intérêt, non moins que dans celui de l'État. Je ne me dissimulais pas que cette conduite, où il entrait quelque chose de ténébreux et dirigé en quelque sorte par des voies souterraines, soulèverait contre moi tous les soupçons et toutes les haines des partis blessés dans leurs plus chères espérances. Le moment redoutable devait être celui où le jour pénétrerait dans ce chaos d'intrigues si diverses et si opposées. Ce qui était plus grave encore et plus dangereux, c'était l'exaltation des fédérés et la violence des énergumènes de la Chambre qui ameutaient contre moi ceux de mon parti, les soldats et la populace. J'écrivis à Lord Wellington qu'il était temps de mettre fin à leur fureur et à leurs excès, car bientôt ils ne me laisseraient plus le maître d'agir. Mais Wellington était contrarié par son intraitable collègue Blücher. Ce Prussien, si impatient et si fougueux, voulait pénétrer dans Paris afin, disait-il, de mettre les honnêtes gens à l'abri du pillage dont les menaçait la populace. Ce n'était que dans les murs de la capitale qu'il prétendait conclure un armistice. Sa lettre nous indigna, mais que faire? Il fallait soutenir un siège, livrer bataille sur les murs de Paris ou capituler. Découragés par l'abdication, les soldats paraissaient irrésolus. Les généraux eux-mêmes étaient rendus timides par l'incertitude de l'avenir. Le ministre de la guerre, général en chef de l'armée, Davoust, m'écrivait qu'il avait vaincu ses préjugés et reconnaissait qu'il n'existait plus d'autre moyen de salut que de proclamer sur le champ Louis XVIII. Je mis ma réponse à cette lettre sous les yeux de la commission. Elle pensa que je jugeais implicitement la question du rappel de Louis XVIII et que je laissais trop de latitude à Davoust. Je passai par-dessus cette mince difficulté, la détermination de ce maréchal m'ayant paru devoir être d'un si grand poids que je lui avais fait promettre un sauf-conduit de la part du roi par M. de Vitrolles. Pressé de délibérer sur notre situation militaire, la commission, d'après mon avis, s'entoura des lumières, des conseils et de la responsabilité des hommes les plus expérimentés dans l'art de la guerre. Les principaux généraux furent appelés en présence des présidents et des bureaux des deux chambres. Ce fut par l'organe de Carnot, qui lui-même avait visité nos positions et celles de l'ennemi, que se fit un rapport sur la situation de Paris. Carnot déclara que la rive gauche de la Seine se trouvait entièrement à découvert et offrait un vaste champ aux entreprises des généraux en chef des deux armées combinées qui venaient d'y porter la majeure partie de leurs forces. J'avoue que j'attachais un grand intérêt national à ce que la défense de Paris ne fût pas prolongée. Nous étions dans un état désespéré, le trésor était vide, le crédit éteint, le gouvernement aux abois. Enfin, par le choc et le heurtement de tant d'opinions contraires, Paris se trouvait placé sur un volcan. D'un autre côté, le territoire était chaque jour inondé de nouveaux débordements de troupes étrangères. Si, dans de telles circonstances, la capitale venait à être enlevée de vive force, nous n'avions plus à espérer ni capitulation, ni arrangement, ni concession. Dans une seule journée, qui eût été le complément des journées de Leipzig et de Waterloo, tous les intérêts de la Révolution pouvaient être engloutis dans les flots de sang français. Voilà pourtant ce qu'auraient voulu les frénétiques d'un parti aux abois. Dans une telle crise, n'était-ce pas mérité de la patrie que de replacer la France sans effusion de sang sous l'autorité de Louis XVIII? Devions-nous d'ailleurs attendre que les armées étrangères nous livrassent pieds et poings liés à nos adversaires? Je parvins, à force d'insinuations et de promesses, à ramener des hommes jusqu'alors intraitables. On arrêta que la question militaire serait soumise dès la nuit suivante à un conseil de guerre convoqué par le maréchal Davoust. On allait ainsi décider s'il était possible de défendre Paris. Capituler sauvait Paris, mais compromettait la cause nationale. Combattre offrait de grands et inévitables dangers pour la capitale en proie à tous les excès de la fureur populaire si nous étions vaincus. Et en effet, à quelle chance funeste ceux qui voulaient livrer la bataille auraient-ils exposé cette immense cité et la France elle-même dans le cas d'une défaite. Les débats furent solennels et sur la réponse négative et unanime du Conseil de guerre, la commission statua que Paris ne serait pas défendu et qu'on remettrait la ville aux alliés, puisqu'ils ne consentaient à suspendre les hostilités qu'à ce prix. Mais Blücher voulut aussi la reddition de l'armée. Une telle condition n'était pas proposable, c'était vouloir tout mettre à feu et à sang. Je dépêchai à la hâte aux deux généraux ennemis, messieurs Tromelin et Massironne, à qui je remis à l'insu de la commission une note confidentielle conçue en ces termes. L'armée est mécontente parce qu'elle est malheureuse. Rassurez-la, elle deviendra fidèle et dévouée. Les chambres sont indociles et par la même raison. Rassurez tout le monde et tout le monde sera pour vous. Qu'on éloigne l'armée. Les chambres y consentiront, en promettant d'ajouter à la charte les garanties spécifiées par le roi. Pour se bien entendre, il est nécessaire de s'expliquer. N'entrez donc pas dans Paris avant 3 jours. Dans cet intervalle, tout le monde sera d'accord. On gagnera les chambres, elles se croiront indépendantes et sanctionneront tout. Ce n'est point la force qu'il faut employer auprès d'elles, mais la persuasion. Blücher devint aussitôt plus maniable et on consentit à traiter de la reddition militaire de Paris qui fut conclue à Saint-Cloud dans la journée du 3 juillet. Je m'opposais à ce qu'il donna le nom de capitulation à ce traité. J'y fis substituer celui de convention qui me parut moins dur et plus acceptable. La faction était encore trop exaspérée pour qu'on pût éviter le tumulte et le désordre. Il fallut opposer la garde nationale aux fédérés, qui ne furent pas contenus sans peine par la masse des citoyens paisibles. Réal, qui avait la direction des fédérés et que je savais facile à effrayer, cédant à mes conseils, fit le malade, laissant là à sa place le préfet de police. La faction y mit Courtin, le protégé de la reine Hortense, qui, montrant elle-même pendant toute cette crise une grande exaltation, s'efforçait en vain de soutenir le reste du parti bonapartiste expirant. Toutes ces manœuvres vinrent échouer devant le plus grand de tous les intérêts, l'intérêt public. On ne tarda pas d'imputer aux généraux et à la commission d'avoir livré Paris et trahi l'armée. Pour justifier de la conduite du gouvernement, j'adressai aux Français une proclamation explicative où j'invoquai l'union de tous les citoyens sans laquelle nous ne pouvions toucher au terme de tous nos maux. Après avoir capitulé avec les étrangers, il fallut capituler avec l'armée qui, au moment de se diriger vers la Loire, se mutina pour nous arracher la solde qui lui était due. Grâce à quelques millions avancés par le banquier Lafitte, on désarma les mutins et l'on satisfit les cupides. Cependant, tous les émissaires et les agents du roi, entre autres monsieur de Vitrolles, avec qui Davoust et moi avions eu des conférences, nous assuraient que le roi fermerait les yeux sur tout ce qui s'était passé et qu'une réconciliation générale serait le gage de son retour. J'avais déjà vaincu des répugnances à l'aide de ces promesses quand parurent, imprimées par ordre des chambres, les proclamations royales datées de Cambrai. Ce fut un nouvel embarras pour ma position devant la Chambre des représentants qui se montrait de plus en plus hostile à l'égard des Bourbons. Bientôt nous apprîmes, par le retour de nos agents et de nos commissaires, que Blücher et Wellington déclaraient hautement que l'autorité des chambres et des commissions émanait d'une source illégitime, qu'en conséquence elles n'avaient rien de mieux à faire que de donner leur démission et de proclamer Louis XVIII. Alors, sur la proposition de Carnot, la commission délibéra s'il ne lui convenait pas de se rallier avec les chambres et l'armée derrière la Loire. Je combattis vivement cette proposition qui aurait infailliblement rallumé la guerre étrangère et la guerre civile. Je soutins que ce moyen désespéré perdrait la France, que j'étais sûr d'ailleurs que la plupart des généraux n'y souscriraient pas, et je déclarai que je serais le dernier à quitter Paris. Ramenée par mes raisonnements, la commission prit le parti le plus prudent et le plus sage d'attendre dans Paris l'issue des événements.